la transe, le temps aboli, et je hoquette. Mes larmes sont incontrôlables, c'est incompréhensible. Il y a une vie furieuse dans le ciel, dans le blé. Me trouver ainsi à quelques centimètres du tableau le rend si vivant, si présent, comme c'est impressionnant. Mon visage à quelques centimètres de la toile. Et alors, je comprends. Papa. Mon père est là, avec nous. Je le porte. Il regarde avec mes yeux le peintre qu'il admire le plus au monde. Mon père regarde le tableau de Van Gogh à travers moi. Il s'est glissé en moi, sans que je m'y attende. Je partage mon corps avec un homme mort. Sait-il ce qu'il fait? Est-il conscient de son intrusion? A posteriori, je ne le pense pas. C'est l'énergie d'une émotion venue à la seconde où j'ai pénétré dans la première salle, la galerie 904, qui a impulsé la fusion de nos âmes. C'est parfaitement absurde. Mais pourtant, c'est l'évidence même à cet instant. Mon père est avec nous, en moi, en train de visiter le Metropolitan Museum. Et chaviré par tant d'artistes qui sont ses amis, il ne parvient plus à se contenir devant une œuvre de celui qu'il considérait de son vivant, comme le plus grand des peintres, après avoir longtemps réservé cette première place à Paul Cézanne. Mon père découvre avec mes yeux la vie, le mouvement, le matériau abondant de la peinture du maître. Des traits de couleur dodus pour les blés qui dansent et les nuages du ciel. La violence des gestes de Van Gogh est si éclatante de vigueur sur le relief de la toile, alors qu'il date d'il y a plus d'un siècle. Dans le tourbillon de sa toute nouvelle vie spirituelle, un ouragan d'excitation fait perdre à mon père toute stabilité, et voilà qu'il est emporté par l'exaltation de ses sentiments. Les frontières de la matière s'abolissent. Son corps de rêve s'immisce dans mon corps de chair. Ses yeux d'esprit s'invitent dans les miens et regardent à travers mes iris. Et mon père m'emporte dans son vertige. Il aura fallu des tableaux magnifiques, un champ de blé, des cyprès et un ciel du passé, pour que je devienne médium, l'espace d'une émotion. J'ai rencontré mon père dans ce musée 25 jours après sa mort. Je savais que l'amour était une clé. Je découvre que la beauté en est une autre. Chapitre 20. La visite de l'oncle Georges. En octobre 2000, Marie-Madeleine, la mère de Raymond, est conduite en urgence à l'hôpital, victime d'une embolie pulmonaire sévère. Elle est âgée de 79 ans. Après un temps passé en soins intensifs, elle reste hospitalisée et retrouve un peu de vigueur, même si elle demeure encore très affaiblie. Les jours qui suivent, son fils ainsi que d'autres membres de sa famille lui rendent visite quotidiennement. Raymond est très attaché à sa mère et profite de chaque moment où ils sont seuls tous les deux pour la presser de guérir, lui répétant combien il l'aime. Il se rassure de la voir manifestement reprendre du poil de la bête. L'espoir revient. Un soir, qu'il entre dans sa chambre pour sa visite quotidienne, il la trouve allongée dans son lit, les yeux ouverts, regardant fixement le fauteuil et comme absorbée par une conversation avec quelqu'un. Sauf que le fauteuil est vide. Raymond et sa mère sont seuls dans la chambre. « Cela m'a surpris, » confie Raymond. « Mais je ne l'ai pas interrompu. Je suis resté plusieurs minutes sans bouger, écoutant. Pourriez-vous me décrire la scène ?» Ça ne ressemblait pas à un monologue. J'avais vraiment l'impression que ma mère était en train de dialoguer avec quelqu'un. Elle posait une question, puis laissait un temps de pause, comme si elle écoutait la réponse. Cela donnait le sentiment qu'on lui répondait, car je la voyais sourire et parfois même éclater de rire. Que disait-elle? Elle évoquait des souvenirs de jeunesse, des épisodes amusants de son passé, mais ce qui m'a bientôt vraiment interloqué, c'est qu'à plusieurs reprises, elle a appelé son interlocuteur par son prénom, Georges, en le vous voyant. « Georges, évoque-t-il une personne en particulier pour vous ?»« Oui, le frère aîné de mon père, mon oncle Georges. » J'étais stupéfait par la réalité de cette scène. Je n'avais pas une seconde de sentiment que ma mère délirait ou parlait dans le vide. Au contraire, elle était calme. Sa voix était posée. Elle répondait à des questions qui paraissaient lui être adressées, comme dans un vrai échange. Par moments, elle acquiesçait, ou encore un sourire se dessinait sur ses lèvres. J'ai interrogé par la suite mon père, parce que je ne m'en souvenais plus, et il m'a confirmé que ma mère vouvoyait son beau-frère de son vivant. Combien de temps cela a-t-il duré? Quelques minutes après que je suis entré dans la chambre, j'ignore depuis quand cela avait commencé. Puis elle a pris congé de Georges en le saluant et en lui demandant de revenir la voir. Elle a alors tourné la tête vers moi et m'a dit « Salue ton oncle avant qu'il parte. » Le premier réflexe de Raymond est de dire à sa mère qu'il n'y a personne dans la chambre. Mais quelque chose le retient, laissant l'instant en suspens. Sa mère lui confie alors, très naturellement, être heureuse de retrouver Georges régulièrement. Elle dit aimer sa compagnie. Raymond ne se sent pas de la contredire. Il n'en voit pas l'utilité. Mon oncle était décédé plusieurs années auparavant. Ma mère le savait. Mais voilà, elle était persuadée qu'il venait la visiter dans sa chambre d'hôpital. Qu'en avez-vous pensé?
Je ne sais pas. Cela semblait si normal.
Ma mère avait l'air heureuse de dialoguer avec lui, alors que depuis son hospitalisation, elle montrait des signes de lassitude, de dépression. Je n'ai pas voulu casser cette sérénité que j'étais si soulagé de voir à nouveau sur son visage. Cette expérience en apparence anodine, pourtant rapportée par tant de témoins et de soignants, notamment en unité de soins palliatifs, a profondément marqué Raymond. Il y repense régulièrement, essayant de comprendre ce qui s'est passé, mais sans y parvenir. La part de lui, rationnelle, sait qu'ils n'étaient que tous les deux dans cette chambre, et que sa mère ne pouvait parler que dans le vide. Mais pourtant, elle paraissait si naturelle, si tranquille, et cette conversation avait l'air si banale. Peu de temps après, Marie-Madeleine sombre dans un coma profond, puis décède le soir du 1er novembre 2000, emportant le secret de ses conversations avec l'oncle Georges, qu'elle a probablement retrouvé. Le témoignage de Raymond fait écho à un passage de « Crime et châtiment » de Dostoïevski, ce moment où le personnage de Svidrigaïlov tente de convaincre Raskolnikov de la réalité de l'existence d'un autre monde. Les fantômes, ce sont pour ainsi dire des lambeaux et des fragments d'autres mondes, leurs principes. L'homme bien portant n'a bien entendu nul besoin de les voir, car l'homme bien portant est le plus terrestre des hommes, et qui, pour l'harmonie et le bon ordre, ne doit vivre que dans la vie d'ici-bas. Mais à peine tombe-t-il tant soit peu malade, à peine l'ordre terrestre normal se détracte-t-il dans son organisation, qu'aussitôt la possibilité de l'existence d'un autre monde commence à se manifester pour lui. Et plus il est malade, plus les contacts avec l'autre monde sont nombreux, de sorte que lorsqu'il meurt pour de bon, il passe directement dans cet autre monde. Chapitre 21. Une promesse d'éternité. Lulu, le conjoint de Claire, est décédé il y a 6 ans d'un cancer alors qu'il n'avait que 28 ans. En 5 ans de maladie, Claire et lui n'avaient jamais évoqué le sujet de la mort, ni entre eux, ni même avec les médecins. Aujourd'hui, cela lui paraît aberrant. Pourtant, quand elle l'a amené aux urgences, car il ne parvenait plus à s'alimenter, et que l'interne de garde lui a expliqué qu'il n'y avait plus d'espoir, elle n'a pas immédiatement compris que son univers venait de chavirer. Sans jamais envisager que Lulu puisse mourir, elle est restée une semaine à ses côtés, dans cette horrible chambre, sans pratiquement dormir ni manger. Le 7e jour,
épuisée, elle est rentrée chez elle pour se reposer un peu. Vers 8 heures du matin, elle a fait un rêve qu'elle se rappelle encore aujourd'hui avec une précision incroyable. Elle se trouve dans ce qu'elle perçoit comme étant un hall d'aéroport. Il y a des sièges et un portique de sécurité. Au fond, derrière le portique, Claire voit un mur entier de lumière blanche très intense, lumière à la fois douce et forte, mais pas éblouissante. Son compagnon l'attend. Il se lève à son arrivée et la prend dans ses bras. Sa tête est rasée, vestige des chimiothérapies, mais son corps est fort et sans trace de la maladie. Il lui dit qu'il doit partir et qu'il l'aime. Ce n'est pas triste. La rencontre est pleine d'amour, de respect et de gratitude. Claire ressent un amour immense pour son compagnon, pour ce qu'elle perçoit dans ses yeux, et elle sait qu'il ressent la même chose. Cet amour est nouveau pour elle. Il est libre d'attachement, de jalousie et d'égocentrisme. Cela ressemble à de l'amour sous sa forme la plus pure. Après une ultime étreinte, Lulu passe le portique, se retourne et lui fait un dernier signe de la main. Claire se réveille en sursaut. « Il faut que j'aille à l'hôpital très vite », se dit-elle. Mais à peine quelques minutes après qu'elle s'est levée, son père lui apprend que Lulu est décédée une demi-heure auparavant. Personne ne peut imaginer quelle a été ma culpabilité de ne pas être présente à ses côtés au moment de son dernier soupir. Sur le moment, Claire n'a pas accordé d'importance à ce rêve. Ce sont les recherches qu'elle a entreprises ces dernières années, découvrant d'autres histoires identiques à la sienne, qui lui ont fait réaliser à quel point elle n'aurait pu espérer meilleurs adieux. Je vois maintenant ce rêve comme ce qu'il a été. Un contact d'âme à âme, loin de nos corps et de nos esprits tourmentés. Une promesse d'éternité. Chapitre 22. Comprendre le sens de la mort. La mort est un passage qui nous amène vers une transformation. Il est capital de souligner que cette transformation peut s'opérer en collaboration avec ceux qui restent sur la terre. Mais comment aider les défunts à prendre conscience de leur nouvel état, à l'accepter et à se détacher de leurs émotions parasites? Un des premiers réflexes à avoir quand on perd un proche est de lui parler, de lui expliquer qu'il vient de mourir au cas où il n'en aurait pas conscience. Cela peut simplement consister à lui dire « Voilà, quelque chose d'important vient de se produire. Tu as perdu ton corps physique. Tu as changé de plan de conscience. Maintenant, ta vie continue ailleurs que sur terre. Il faut t'en détacher à ton rythme. Si tu as besoin d'aide, je suis là, à ton écoute. Il doit y avoir une lumière quelque part, des êtres présents pour t'aider. Essaye de les voir. » Parler à nos proches défunts ne nécessite pas d'établir une communication comme les médiums savent le faire. On peut leur parler à haute voix, devant leur corps, si les circonstances le permettent. Mais ça ne constitue absolument pas un impératif. Il est tout autant possible de s'adresser à eux seuls chez soi, en fait, en toutes circonstances et tout lieu qui nous conviennent, en s'exprimant distinctement ou simplement en murmurant. S'exprimer à haute voix a l'avantage de permettre une meilleure articulation de nos propos, en ce qui me concerne tout au moins. Mais leur envoyer nos pensées en esprit est également efficace. Gardez en tête que si nous leur parlons, ils entendent. Il existe de nombreux moyens de poursuivre notre relation avec eux. Il suffit de choisir celui qui est évident pour nous. Avoir un retour de leur part leur demande en revanche beaucoup d'énergie. On peut leur proposer d'établir un code de communication suivant ce que l'on suppose être significatif et facile pour nos défunts. Il est ainsi possible de leur suggérer de transmettre des messages par l'intermédiaire de nos rêves ou au moyen de synchronicité lors des divers événements de la journée. Ils ont mille façons de le faire. Mais il faut vraiment garder à l'esprit que c'est loin d'être aisé pour eux. À l'inverse, je le répète, eux nous entendent facilement. Soyez à l'écoute et attentifs, et exprimez ce que vous avez à exprimer. Nos attentes brouillent la réceptivité des messages, précise Sylvie Ouellet. Alors, dans la mesure du possible, il faut lâcher prise sur le désir de recevoir un signe et accepter à l'avance que la réponse puisse tarder ou même ne pas nous parvenir. Les défunts ne sont pas toujours en mesure de communiquer. Particulièrement lorsqu'ils arrivent juste de l'autre côté, ils peuvent être fort occupés. Si l'on essaie de communiquer pendant ces moments-là, notre message sera reçu, mais ne trouvera pas obligatoirement de réponse immédiate. D'après Sylvie, le fait de ne pas se manifester n'est donc pas nécessairement la preuve d'un manque d'amour. Le silence apparent du défunt peut même être précisément une marque d'affection importante. En effet, dans le cas d'un défunt fortement lié à une personne, faire un signe peut s'avérer difficile dans la mesure où cela l'oblige à s'approcher de cette personne alors qu'il doit se défaire des attachements qui le retiennent à la terre. Pour lui, l'amour véritable s'exprime alors par ce détachement temporaire, détachement nécessaire à son évolution, mais aussi à celle de ses proches restés sur terre. Aimer, c'est laisser partir. Le silence d'un défunt peut donc simplement signifier de sa part un besoin d'intériorisation indispensable à son évolution du moment. Il peut aussi marquer l'expression d'un trait de personnalité qu'il faut respecter. Dans les cas nombreux de communication, la manifestation se produit assez rapidement après le décès. Si tu dois partir précipitamment en voyage et que tu n'as pas eu le temps de prévenir ta famille, quelle est la première chose que tu vas faire en arrivant à destination ? Me demande Sylvie.
Je les appelle.
Exactement. Les défunts auront ce même élan. N'oublions pas qu'ils ne sont pas différents juste après la mort. Par exemple, la personne qui n'a jamais communiqué avec ses guides, ses anges ou avec les êtres de lumière durant sa vie ne pensera pas à le faire en arrivant de l'autre côté. Et comme lorsqu'elle était sur Terre, elle sera encline à chercher à communiquer avec ses proches. Ce désir de contact avec eux sera encore plus criant si cette personne croyait qu'il n'y avait rien après la mort. Tu imagines la surprise pour elle en constatant qu'elle est toujours en vie? Elle arrive de l'autre côté et à sa stupéfaction, elle découvre que la vie continue. Qu'est-ce qu'elle va vouloir faire? Aller le dire à ses proches? D'ailleurs, quand on regarde les recherches qui sont faites sur ces phénomènes, on observe que la grande majorité des gens qui ont des signes d'un défunt disent les avoir reçus dans les tout premiers moments de la mort.
Oui, effectivement.
Pourquoi ? Parce que le défunt doit terriblement avoir envie de s'exprimer, de rassurer ses proches et de leur dire « Hé, je suis encore là, ne pleurez pas ma mort, mais la mort de mon corps, car moi, je suis bien vivant. » Aux yeux de Sylvie, la mort fait partie intégrante de ce qu'on est venu expérimenter en s'incarnant. Elle ne se produit pas par hasard dans notre vie. Elle revêt un sens profond, même s'il demeure souvent inaccessible à nos yeux humains. On manque de perspective et la douleur de perdre une personne que l'on aime nous voile le sens profond et subtil des choses. Mais parfois, s'il nous en est donné la force, si dans l'évolution de notre cheminement de deuil nous parvenons à atteindre un espace plus apaisé et que cela nous conduit à modifier notre regard, alors il nous est possible de réaliser que la mort d'un être aimé, au-delà du manque et de la mélancolie, a fait de nous une personne différente que celle que nous aurions été sans ce drame. Une personne plus riche, une personne plus ouverte à certaines dimensions de la réalité, une personne plus à l'écoute de sa part spirituelle. Les prises de conscience qui vont en découler dans notre vie comme dans la vie de ceux qui nous entourent sont parfois vertigineuses, comme nous allons le voir dans plusieurs témoignages à venir.
Mon parcours m'a appris que la mort
est toujours au service de notre ouverture de conscience, conclut Sylvie. Elle surgit toujours pour susciter cette ouverture chez celui qui la vit, mais aussi chez toutes les personnes touchées par cette mort.
Pas évident à entendre quand on est en deuil.
Effectivement. Mais en même temps, j'ai vu beaucoup de gens s'apaiser en comprenant qu'il y a un sens à la mort, qu'elle n'est pas vaine, aussi bien pour la personne qui en fait l'expérience que pour toutes celles qui ont côtoyé le défunt. La mort n'est pas une fin. Elle appelle à une transformation. Si on la comprenait mieux, on serait mieux préparé à expérimenter pleinement tout ce que l'on rencontre au fil de notre vie.
Chapitre 23. Les trois médecins. Ils sont trois frères, soudés par un amour incroyable. Alors que leur père est architecte et leur mère détentrice d'un DEA en langues étrangères appliquées, les trois garçons ont choisi la médecine. Le cadet, Clément, 34 ans, est devenu chirurgien et travaille aujourd'hui dans un hôpital spécialisé dans le traitement des cancers. Le deuxième, Jonathan, est également chirurgien dans un service de chirurgie cervico-faciale. Quant à l'aîné, David, 37 ans, il s'est orienté vers la psychiatrie avec passion. Tous les trois ont les pieds sur terre et un solide parcours rationnel que rien n'est venu ébranler. C'est Clément que je rencontre. Il vient discrètement me questionner à l'issue d'une conférence. Son père l'accompagne. Tous deux sont transpercés de tristesse. Je suis touché par leur douleur. La catastrophe vient à peine de se produire. Quelques semaines plus tard, je retrouve Clément dans le centre de Paris. Il me livre alors les détails de ce qui submerge sa famille depuis l'automne et les laisse stupéfaits. Avant le drame, nous n'étions évidemment pas familiers de ce genre de phénomène. Nous avons baigné dans une culture laïque, mes parents ayant choisi ce compromis étant de religions différentes, bien que non pratiquants. Tout commence un matin très tôt de mi-septembre 2017, lorsque David rejoint son véhicule garé dans la rue pour se rendre à son travail et fait subitement un arrêt cardiaque. Un témoin appelle les secours. Dès leur arrivée, ils parviennent à faire repartir le cœur de David. Stabilisé, mais dans le coma, il est emmené à l'hôpital. David vient d'avoir un petit garçon. Devenir père est depuis des années une sorte d'obsession chez lui, un désir intense, comme si donner la vie était urgent. Toutefois, la paternité ne l'a pas incité à alléger sa lourde charge de travail. Au contraire, il n'arrête jamais. Clément admire la détermination de son aîné, mais cela ne l'a pas empêché de le mettre en garde à plusieurs reprises sur ce rythme trop soutenu. David a toujours été brillant. Doté d'une grande sensibilité, il est également curieux de spiritualité, s'intéressant à toutes les religions sans adhérer particulièrement à l'une d'elles. Très apprécié de ses nombreux amis, malgré son activité intense, David n'hésite jamais à rendre service. Est-ce lié à ce qu'il a traversé alors qu'il était jeune étudiant? En effet, au printemps 2001, David, son frère Jonathan et une amie ont été impliqués dans un dramatique carambolage. Lors de cet accident, David a raconté avoir vu toute son existence défiler. Depuis ce jour, sa vie n'a plus jamais été la même. Il était persuadé qu'il partirait jeune, avant tout le monde. Suite à son arrêt cardiaque, David arrive dans un état critique aux soins intensifs. Un de ses amis qui a étudié en même temps que les trois frères et qui se trouve à l'heure de garde le reconnaît. Bouleversé, il n'arrive pas à y croire. Mais bientôt, d'autres collègues, également proches de David, entrent dans le service et la nouvelle se répand. Son frère Jonathan est prévenu. Puis le cadet, Clément, reçoit le terrible appel alors qu'il se trouve à près de 300 kilomètres. Le temps s'arrête. Je révisais un examen de chirurgie plastique. J'ai tout lâché et suis parti immédiatement. En arrivant au chevet de David, les deux frères comprennent la gravité de son état. Le soir, ils se résignent à informer leurs parents qui résident à l'autre bout de la France, mais Clément et Jonathan
en disent le moins possible par téléphone et ne livrent aucun détail. David a fait un malaise. Il est hospitalisé et c'est assez grave.
Les parents prennent la route alors que la nuit est tombée. 5 heures de trajet les attendent.
La femme et le fils de David, qui se trouvaient en visite chez eux, les accompagnent. Dans la voiture qui file en direction de l'ouest, tout le monde pleure à chaudes larmes, en silence. Pendant ce trajet, ma mère est entrée dans une sorte de communication télépathique avec David.
Il était encore vivant à ce moment-là?
Oui.
Qu'entendez-vous par communication télépathique?
Elle m'a décrit avoir été dans une sorte de bulle. Le mieux est peut-être que je lise ce qu'elle a écrit à votre intention. Vers 2 heures du matin, alors que nous roulions en direction de l'hôpital, après avoir appris que David était dans un état critique, j'ai vécu une conversation télépathique avec lui. Il me parlait, comme il le faisait toujours, avec beaucoup de tendresse et de douceur. Il me disait